pouvoirs publics peuvent aussi, à un moment ou un autre, peut-être pas contraindre, mais accompagner les industriels pour que ça fasse des transitions. C'est-à-dire que nous, nous utilisons de l'eau, mais demain, on pourrait aussi peut-être mieux recycler l'eau.
La mer à boire. La série sur la précarité d'accès à l'eau dans les îles bretonnes, réalisée par les étudiants et étudiantes en journalisme de l'IUT de Lannion. Épisode 3. À Groix, l'industrie s'adapte face au manque d'eau.
On part de Lorient, on est sur le bateau qui va nous amener à Groix. Là-bas, on va parler de la tension autour de l'eau et on va surtout aborder à Groix la question de la gestion de la ressource en eau dans le secteur économique. Parce que sur les îles, il est nécessaire d'avoir des entreprises pour faire vivre les habitants, mais ces entreprises, elles captent une grande partie des ressources. On va donc voir comment elles font pour s'adapter, mais aussi si un équilibre est possible entre les enjeux économiques et environnementaux. L'île de Groix, c'est un rocher situé au large de l'Orient, dans le sud de la Bretagne. Avec plus de 2300 habitants, elle est la deuxième île la plus peuplée de la région après Belle-Île. Ici, comme dans les autres îles du Ponant, l'accès à l'eau potable reste compliqué, mais lorsqu'on s'y promène, ce qui est surtout frappant, c'est la vie économique de l'île. En sortant du bourg, il suffit de quelques coups de pédale pour arriver dans une zone artisanale. Ici, il y a deux industriels, une brasserie et une usine d'agroalimentaire, alors même que Groix équivaut à un village du continent. Ces industriels, ils sont présents parce que la mairie mène une politique volontariste pour faire venir les entreprises. Elle a notamment créé la zone artisanale il y a une vingtaine d'années pour favoriser l'activité économique insulaire.
Ah bah oui, mais il vous faut une chaise, vous n'allez pas vous asseoir sur le radiateur.
Allons-y. Dominique Yvon, j'ai été élu maire en 89, donc c'est mon quatrième mandat de maire et mon sixième mandat d'élu local. L'eau, ça a permis de développer non seulement le tourisme, l'agriculture, mais bon, les entreprises. Bon, bah, des entreprises comme on a Grand Nature, vous faites le tour des îles, donc il va y en avoir beaucoup. Hein.
L'île, elle a les ressources nécessaires en eau pour installer ses entreprises. Ici, l'eau potable provient d'un barrage et de quatre forages qui puisent dans des nappes phréatiques. Moins besoin donc de citernes individuelles, comme nous avons pu en voir à Saint ou à Molène.
C'est des entreprises d'agroalimentaire, ils ont besoin d'eau. La brasserie qui est à côté, bon, ils ont besoin d'eau aussi.
Sans les structures d'accès à l'eau qui ont été mises en place dans les dernières décennies, c'est impossible d'avoir une entreprise comme ça.
Bah, bien sûr. Parce qu'ils sont obligés d'avoir une eau qui est potable. Ils ne peuvent pas se contenter de l'eau du puits ou l'eau de la fontaine du coin. Hein. Mais sinon, s'il n'y avait pas eu l'eau courante, bien entendu, ils ne seraient pas venus. Hein.
L'eau courante, c'est pourtant une ressource en tension sur les îles. L'eau potable à Groix, elle vient exclusivement de la pluie. Or, comme dans les autres îles bretonnes, les précipitations sont plus faibles que la moyenne régionale. Groix a d'ailleurs connu des périodes de sécheresse, dont une importante en 2022. À l'époque, pendant toute la saison estivale, les pouvoirs publics avaient dû réduire le débit des robinets de moitié et mettre en place une usine de dessalement temporaire. Les industries installées ici doivent donc prendre en compte cette tension autour de l'eau pour leurs activités. C'est notamment le cas dans l'usine de Groix et Nature.
Là, il est 7h du matin. On est devant l'usine de Groix et Nature. Groix et Nature, c'est une entreprise d'agroalimentaire qui est sur l'île. En fait, elle emploie 20 personnes. Elle fait des plats préparés à partir de poissons. On va parler avec eux de leur gestion de l'eau parce que l'entreprise a été longtemps le plus gros consommateur d'eau sur l'île. Donc on va essayer de voir avec eux comment ils se sont adaptés à la tension qu'il y a autour de cette ressource-là et surtout leur place sur l'île quand il y a des ressources en eau qui sont aussi minimes.
Je vais vous chercher des équipements.
On reste en attendant, c'est ça?
Ouais.
C'est Yves Guélaen, le chef de production, qui nous fait la visite.
Tous les produits arrivent par ce sas. Donc contrôle qualité ici, et une fois que le contrôle qualité par rapport à nos commandes sont réalisées, vous arrivez sur une cuisine. C'est là que l'intégralité de nos recettes sont travaillées. Ça peut ressembler à une cuisine de collectivité. L'une des grandes spécialités, c'est vrai que c'est des rillettes.
Il y a aussi un gros travail de nettoyage.
On est dans l'agroalimentaire, donc garantir en fait l'hygiène de cette usine. Donc elle est nettoyée, moussée, désinfectée tous les jours.
Il y a aussi beaucoup de tensions sur l'eau. Comment vous gérez ça?
Alors, on est plus que sensible à ça. c'était il y a 2 ans la restriction d'eau où en quelques mois on nous a demandé de réduire de 25% notre consommation. 25% sur un process industriel, je peux vous dire qu'il faut le tenir.
On a baissé d'à peu près 40% notre consommation d'eau depuis 2019.
Richard Béziat, le directeur de l'usine de Groix et Nature.
Pour réduire notre conso d'eau, en fait, on a travaillé sur plusieurs axes. Ça a été de changer, dans un premier temps, notre plan de nettoyage. Il y a certaines surfaces qu'on a moins nettoyées, certaines surfaces qu'on a nettoyées différemment avec des produits qui ne nécessitent pas de rinçage, donc pas d'eau. Après, on a travaillé sur le process, c'est-à-dire nous, on est gros consommateurs d'eau, c'est par les autoclaves. C'est l'acte de stériliser une conserve. C'est tuer toutes les bactéries qui sont dans les conserves. Et pour ça, en fait, on consomme beaucoup d'eau. Donc, on a une autoclave qui consommait 1300 litres d'eau par autoclave. Et on est passé à peu près 600 litres d'eau. Et dernière chose qu'on a fait, après, c'est assez récent. On a changé tous nos pistolets de nettoyage. J'ai rencontré un inventeur qui a créé, en fait, un concept qui mélange de l'air et de l'eau. Et donc, il a créé des pistolets, en fait, qui consomment 80% d'eau de moins.
Démonstration à l'usine.
L'intérêt de ce genre d'outil, c'est qu'en fait, plutôt que d'utiliser de l'eau simple, ils pulvérisent de l'eau sur le même principe qu'un karcher, mais plus poussé. Vous avez beaucoup d'air dedans.
Là, je vois qu'il y a 2 tuyaux emmêlés. Est-ce comment ça fonctionne ?
Eh bien, vous avez un tuyau qui amène de l'air, un qui est raccordé à de l'eau, et qui diffuse simultanément, vous pouvez régler l'air et l'eau, qui diffuse simultanément cela.
Là, on voit justement que ça pulvérise vraiment, c'est comme un karcher finalement.
C'est le même principe. C'est le principe qui est industrialisé et on a la même qualité de propreté et d'hygiène, on peut faire le même travail, mais du coup en consommant nettement moins d'eau.
Malgré ces efforts, l'usine consomme chaque jour entre 8000 et 12 000 litres d'eau. C'est ce que consomment entre une dizaine et une quarantaine de foyers groisillons quotidiennement.
On est les plus gros consommateurs, d'après ce que j'ai compris, d'eau de l'île. De façon globale, l'agroalimentaire est consommateur d'eau. Donc après, à nous de mettre les choses en œuvre pour consommer le moins d'eau possible. En fait, le but, c'est que l'entreprise soit le plus neutre possible pour son environnement. Après, effectivement, une entreprise sur une île, c'est toujours délicat et difficile. Après, il y a les mêmes difficultés de l'autre côté. Si ce n'est effectivement à Groix, c'est exacerbé par le fait que ce soit une île. Mais l'eau, je pense que c'est un enjeu pour tout le monde.
Mais quand on demande dans le même temps aux habitants de fermer les robinets en se brossant les dents, cela pose une question. Est-ce viable de maintenir des activités économiques aussi consommatrices d'eau ? Pour Dominique Yvon, le maire de Groix, elle reste en tout cas essentielle.
Il y a 2 choses primordiales dans l'île, c'est créer de l'emploi et créer des logements.
Mais ça paraît assez aussi paradoxal que sur une île où au quotidien les habitants et habitantes doivent faire attention sur leur douche, sur l'eau qu'ils boivent, tous les usages du quotidien, et en même temps avoir une usine qui doit utiliser des litres d'eau, des mètres cubes d'eau pour nettoyer.
Ouais, c'est ça, ou alors ils mettent le personnel au chômage, quoi. Ouais, le propriétaire de l'usine de Groix, du groupe, hein, la holding, c'est Christian Guyader. Je le rencontre un jour sur les quais de Portudy, et puis il me demandait comment ça se passait à la mairie, tout ça. Bon, je dis, nous, ce qu'on voudrait, c'est faire venir des entreprises, que si on ne crée pas de l'emploi, on va crever, quoi, hein, doucement, et on finira par mourir, quoi. Et donc, il vient me voir 6 mois après, et il me dit, si je m'installe à Groix, éventuellement, je peux compter sur ton soutien. Ben, je lui dis oui. Et pour nous, ça a été quand même faire venir une entreprise du continent pour s'installer. Je veux vous dire, ça relève de la performance. Hein.
Du côté de l'agglomération de Lorient, qui s'occupe de la gestion de l'eau à Groix, si l'activité économique est évidemment cruciale, tout est question d'équilibre.
Donc moi, je suis M. Jo Daniel, je suis vice-président de Lorient Agglomération, en charge de l'eau et de l'assainissement. Je pense qu'aujourd'hui, il faut continuer à sensibiliser tout le monde à la nécessité de la préservation de la ressource en eau.
Mais est-ce qu'on peut garder des industries qui sont très consommatrices dans des territoires qui sont en tension sur ces ressources-là ?
Écoutez, je suis sûr qu'il n'y aura pas d'usine sidérurgique qui va chercher à se monter à l'île de Groix. Soyez rassurés là-dessus. Hein, il n'y a pas de problème sur ce sujet. Il y a une question d'équilibre à trouver. Hein, c'est-à-dire qu'il ne faut pas aller chercher à implanter à l'île de Groix ou ailleurs des usines qui n'y auront pas leur place. Par contre, il faut chercher à développer des usines qui vont trouver le contexte naturel, on va dire, pour pouvoir bien s'y adapter et bien y fonctionner.
Prendre en compte la ressource, c'est de toute façon obligatoire, en tout cas pour Yves Guélaen, le chef de production de l'usine de Groix et Nature. Lui voit la nécessité d'un changement idéologique pour maintenir une activité économique sur le long terme, et l'aide des pouvoirs publics est inévitable.
Les pouvoirs publics peuvent aussi, à un moment ou un autre, peut-être pas contraindre, mais accompagner les industriels pour que se fassent, et j'espère, se fassent des transitions. C'est-à-dire que nous utilisons de l'eau, mais demain, on pourrait aussi peut-être mieux recycler l'eau. Mais ça a des coûts. Est-ce que les entreprises sont capables de supporter ces charges, ces investissements d'adaptation? Comment on fait évoluer les économies pour qu'elles soient les moins consommatrices? Mais de toute façon, on va pas avoir le choix. Le rapport à l'eau, oui, bien sûr. Donc, oui, évoluer des comportements, des investissements, faire en sorte qu'on puisse vivre avec la ressource.
Prendre en compte les enjeux environnementaux pour penser à un modèle économique viable, c'est ce que le deuxième industriel de l'île essaie de réaliser une rue plus loin, toujours dans la zone artisanale de Groix. Depuis 2019, une brasserie s'y est installée. À première vue, ce n'est qu'une entreprise comme une autre, mais derrière se cache un projet plus écologique qu'industriel.
Je m'appelle Jean-Pierre Reynaud, j'ai créé la brasserie sur l'île de Groix il y a maintenant 5 ans. Ce projet, c'est un projet de la terre. Et ce que je souhaite, c'est proposer aux personnes qui achètent notre bière une bière qui est issue de la terre de Groix et de ne rien rajouter de tout le long du process.
Toute la brasserie a été pensée en fonction de la gestion des ressources. Alors ici, on consomme près de 2 fois moins d'eau que dans les brasseries artisanales du continent.
Statistiquement, en France, une brasserie consomme à peu près 5 à 6 litres d'eau pour faire 1 litre de bière. Ici, cette brasserie, elle fait l'équivalent de 3 litres d'eau pour 1 litre de bière. La première chose, c'est que, en règle générale, dans les grandes brasseries, on va pasteuriser la bière en mettant un flux d'eau chaude sur les bouteilles. Nous, on ne pasteurise pas la bière. Un autre exemple, vous voyez, dans cet atelier, nous avons 2 cuves. Et là, par exemple, on conserve de l'eau froide. Cette eau froide, lors du process, on a un échangeur à plaques. Et bien, l'eau froide, quand elle va passer là, je la récupère, et c'est de l'eau chaude. Et cette eau chaude, je vais l'utiliser pour le brassin suivant.
Jean-Pierre Reynaud travaille exclusivement avec un agriculteur de l'île pour l'orge utilisée dans sa bière, car selon lui, les économies d'eau à elles seules ne suffisent pas à assurer les ressources sur le territoire. Il faut penser de façon globale, notamment à la régénération de la terre.
Vous avez la certitude et la conviction que sur une île, il fallait consommer le moins d'eau possible.
Mais pourquoi justement? Parce que votre projet initialement, il est plus axé sur la terre donc, et, sur cette question-là. Comment la gestion de l'eau s'est intégrée à ce projet?
Parce qu'en fait, la brasserie a besoin d'eau. Donc là-dessus, il était important qu'on ne soit pas des surconsommateurs d'eau. Et puis, oui, certes, il faut qu'on freine, c'est-à-dire qu'il faut qu'on soit le plus économe possible. Mais qu'est-ce qu'on peut faire aussi pour régénérer les capacités en eau? Et la régénération de l'écosystème joue aussi sur la régénération en eau. Parce qu'en fait, si la terre est sèche et morte, eh bien, l'eau qui tombe va ruisseler, elle ne rentre pas dans les nappes phréatiques. Si la terre est fertile, c'est-à-dire que si la terre respire, elle absorbe de l'eau et de ce fait-là, la transfère dans les nappes phréatiques.
Pour le brasseur, développer une activité économique sur un territoire en tension doit donc se faire en concordance avec son environnement.
Il faut que ça soit un cercle vertueux, hein, et donc à la fois effectivement l'activité économique doit permettre d'améliorer et de régénérer la nature et l'environnement et s'assurer que cette activité-là est l'empreinte la plus faible sur le territoire. On sait que les terres fertiles disparaissent. Et des terres fertiles qui disparaissent, c'est à la fois de la nourriture ou de la capacité de nourriture en moins, mais c'est aussi une capacité de collecte d'eau en moins. Donc c'est une vraie réflexion qu'il faut avoir sur ce qui est sous nos pieds, quoi. Et je trouve que les îles, pour ça, c'est un bon laboratoire. Parce que comme on est, entre guillemets, on a une certaine autonomie, ça justifie la résilience. Et donc, on se doit de penser la résilience et de se dire, mais et si on avait moins d'eau, qu'est-ce qu'on fait? Si cette démarche, je dirais, de préparation, de réflexion se fait, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas la faire non plus sur le continent.
C'était le troisième épisode de La Mer à boire, la série sur la précarité d'accès à l'eau potable dans les îles bretonnes, réalisée par Armand Morera et Margot Arrivel. Supervision, Olivier Trédant, Philippe Gestin et Aurélie Fontaine. Accompagnement, Benjamin Mathieu. Musique et aide au mixage, Victor Blanchard. Dans le prochain épisode, Belle-Île, l'eau à l'épreuve du tourisme.